Au fil des mots,
une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelongue, médiathèque de Lafitte Bigordan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au fil des mots, nous retrouvons Luc pour cette sélection de la médiathèque municipale Marie Lannelongue de Lafitte. Ses actualités, les nouveautés, coups de cœur, et etc., etc. Bonjour Luc.
Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs.
Des actualités nouvelles ?
Oui, nouvelles, importantes, parce que ce mois de décembre va voir enfin la réalisation de la première édition de la première fête du livre et de l'image, Lafitte en livre. Elle est préparée depuis de longs mois par toute l'équipe de bénévoles et son but, c'est de rassembler, de promouvoir sur une seule journée nombre d'auteurs, d'illustrateurs, de petits éditeurs, mais avec une particularité, c'est que tous ces gens-là sont de la région, uniquement de la région. D'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ils sont auto-édités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connus du grand public en général.
Oui, et pour beaucoup aussi, il faut le dire, ils ont été invités par Radio Galaxie à venir participer à Reliure.
Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier Radio Galaxie et puis surtout toi, Gisèle, puisque quand on a lancé cette idée, tu nous as fourni, je dirais, un carnet d'adresses qui nous a permis de commencer à lancer l'opération.
Oui.
Et puis ensuite, des recherches plus personnelles et puis le bouche à oreille ont fait que nos invitations ont en fait rencontré un vif succès. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de réponses favorables.
Mmh.
Je suis fier et heureux d'annoncer qu'il y aura 46 stands, c'est-à-dire 46 auteurs,
ah oui,
illustrateurs ou éditeurs, qui seront présents le 17 décembre à Lafitte Bigordan. Et cela permet aussi quelque chose de très bien, c'est qu'on couvre un petit peu un large éventail, pas vraiment de la littérature, mais disons de l'édition, puisqu'il y aura bien sûr des auteurs de romans, alors
oui,
dans tous les domaines, romans sentimentaux, je dirais, romans policiers, bien sûr, romans d'aventure, romans historiques, puisque, je vais le citer à l'occasion, notre parrain n'est autre que Jacques Harlé, qui a à son actif une vingtaine d'ouvrages, soit purement historiques, soit romanesques, dans l'histoire, sur la région, sur Toulouse et même sur Lafitte Bigordan. On y trouvera aussi des livres d'aventure, de reportage, des livres de jeunesse, des romans jeunesse, bien sûr, ils ne sont pas oubliés. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas les mots alignés, il y aura des BD,
oui,
des BD adultes, des BD enfants. Pour les plus jeunes, des albums enfants. Et ensuite, on trouvera aussi des livres photos, des livres même de cuisine, spécialisés bien sûr, et puis même des livres de coaching personnel, c'est très à la mode en ce moment.
Oui.
Puis bien d'autres surprises que vous découvrirez sur place.
Mm-hmm. Cette, oui, journée du 17 décembre est bien donc ancrée maintenant, et ne demande qu'à fleurir.
Voilà, mais on y travaille encore,
oh, puisque
on est en train d'essayer de mettre en place la finalisation de petites conférences, enfin je dirais plutôt causeries, qui seront proposées tout au long de la journée sur des thèmes variés. Hein, on n'a pas la prétention de faire de grandes conférences, mais
oui,
de petites causeries présentées par les auteurs qui seront là. Pour l'instant, on ne peut pas donner le programme exact, il suffira de le trouver à l'entrée le 17 décembre. Alors il faut préciser que l'entrée est gratuite. Et qu'en plus, il y aura un petit coin restauration, bien sûr, pour ceux qui auront envie de se reposer quelques instants et de grignoter quelque chose avec une boisson chaude ou froide.
Oui. Donc, c'est très bien, ça, pour une grande première à Lafitte dans un petit salon de livres.
Oui. Gisèle, petit, c'est
oui,
ce qu'on pensait au début.
Oui.
Et on se retrouve avec 46 auteurs présents. Et je pense que ça commence à être... De toute façon, les murs n'étant pas élastiques, on sera obligé de s'arrêter là, puisqu'à Lafitte, on n'a pas des salles suffisamment grandes. Mais je trouve que 46 auteurs, quand je regarde les salons qui se passent tout autour dans la région, généralement, les plus gros, c'est 40-46, à part les très grandes villes, bien
oui,
sûr.
Oui.
Ce que j'espère, c'est que le public répondra présent, qu'ils seront nombreux à venir et que cette première sera une réussite. Mm-hmm. Parce qu'on y a vraiment travaillé et mis tout notre cœur dedans.
Oh oui, mais j'espère aussi que les auditeurs répondront présents. On va passer maintenant aux nouveautés de décembre. Quelle nouveauté? Qu'est-ce que les auditeurs vont pouvoir s'offrir en lecture à cette médiathèque Marie-Lannelongue?
Comme je l'avais précisé lors de l'émission précédente, on va essayer au sein de la médiathèque de présenter chaque mois quelques nouveautés qu'on met en circulation de façon à ce que les gens aient le temps de les lire sans se précipiter sur un gros volume comme on faisait jusqu'à présent et qui reste pendant un an. Ce mois-ci, on a 26 titres qui couvrent les romans, les policiers, les romans jeunesse. Donc je vais vous parler des deux, trois principaux. Côté roman, moi je tenais à mettre en avant un livre de Claire Way Watkins, « Les sables de l'Armagosa ». Pourquoi ? Parce qu'il est d'actualité. Ça se passe durant une terrible sécheresse en Californie qui transforme le paysage en apocalypse. Les habitants ont été obligés de déserter les lieux puisqu'ils sont devenus stériles. Il y a en fait une espèce de énorme, immense dune de sable mouvante qui avance, qui broie tout sur son passage, qui détruit toute végétation et toute vie. Dans la période que l'on vit, c'est quelque chose qui est malheureusement d'actualité parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais il se pourrait que ce genre de scénario arrive quelque part dans certains pays, du Sud surtout. Ce livre a été salué par la presse américaine. Il surprend, je pense, par son réalisme et sa dimension prémonitoire. Cet ouvrage est écrit dans une langue d'une beauté assez brutale, mais il est aussi ponctué de scènes mémorables. Il réinvente quelque peu ce qu'on appelait le roman de l'errance. Donc, mm-hmm. « Les sables de l'Armagosa » de Claire Way Watkins. Tout autre domaine, « La chambre des époux » d'Éric Reinhardt. Nicolas, une quarantaine d'années, est compositeur de musique. Et malheureusement, un jour, sa femme Mathilde apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein et qu'elle doit subir une intense chimiothérapie. Nicolas s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, mais il est compositeur et sa femme l'exhorte à terminer la symphonie qu'il a commencée. Elle lui dit qu'elle a besoin d'inscrire ses forces dans un combat avec lui, dans un combat conjoint. Le compositeur est transfiguré pratiquement par cet enjeu qui est vital pour sa femme. Et chaque soir, il joue à Mathilde, sa femme, au piano, dans la chambre à coucher, les morceaux de la symphonie qu'il est en train d'écrire et pour essayer de l'aider à guérir. C'est un livre émouvant puisque Éric Reinhardt a vécu quelque peu le même scénario il y a à peu près 10 ans avec sa propre épouse. Et il livre de ce fait une saisissante méditation sur la puissance de la beauté de l'art et de l'amour qui, je pense, mis ensemble, peuvent effectivement arriver à sauver des vies. Mmh. Donc, « La chambre des époux » d'Éric Reinhardt.
Ensuite, on va passer à Leïla Slimani.
Oui. Leïla Slimani, qu'on a connue pour son roman qui a été couronné d'un prix littéraire. Cette fois-ci, on est à la limite du documentaire. Leïla Slimani est d'origine marocaine et elle a décidé de mener une enquête dans son pays, de ville en ville. Elle est allée écouter les problèmes que rencontrent les femmes dans la société marocaine. Dans cette société, la femme, elle ne peut être que deux choses, ou vierge ou épouse. Et tout ce qui est hors mariage est nié. Donc on n'en parle pas. Ça existe, mais on n'en parle pas. On ne parle pas de prostitution, on ne parle pas d'homosexualité, on ne parle pas de business de la nuit, des riches touristes sexuels, des pédophiles, de la corruption de la police même. C'est un drame, je pense, qui s'est passé début 2016, qui a été le lynchage de deux homosexuels et ensuite, la même année, l'agression d'un film Much Loved, qui était un peu trop osé pour bien penseur marocain, ont mis en avant ce profond malaise de cette société qui est écartelée entre le sexe et le mensonge, puisque tout existe, mais on n'en parle pas. Donc, dans ce livre, Leïla Slimani nous transmet la parole forte et sincère d'une jeunesse marocaine, une jeunesse qui est bâillonnée dans le monde arabe. Le sexe se consomme pourtant comme une marchandise, mais je dirais sous le manteau.
Oui, en effet.
Voilà. Les autres acquisitions qui sont rentrées à la médiathèque, on a Le jour d'avant de Sorge Chalandon, La beauté des jours de Claudie Gallet, Un personnage de roman de Philippe Besson. Pour la petite info, le personnage de roman n'est autre que notre cher président Emmanuel Macron. Les huit montagnes de Paolo Cognetti. Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie Grimaldi. Et un titre surprenant, mais il faut aller le lire. Interdit à toute femme et toute femelle d'un auteur qui s'appelle Ono Di Bio. Je vous rassure, c'est parce que ça se passe dans un monastère grec qui est effectivement interdit à toute personne féminine. Ça ne va pas plus loin.
Bien. Côté policier de votre sélection?
Tout à fait. Le dernier Marc Lévy, qui est bien connu, la dernière des Stanfield, c'est l'histoire d'une journaliste du magazine National Geographic qui vit à Londres. Et un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme qui lui apprend que sa mère a un passé criminel. À l'autre bout du continent, il y a un ébéniste qui vit dans les cantons de l'Est, au Québec. Lui aussi, un matin, il reçoit une lettre anonyme qui accuse sa mère, pareil, des mêmes faits. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, l'auteur des lettres leur donne rendez-vous à tous les deux dans un bar, le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit? Quels crimes leurs mères ont-elles commis? Qui est le corbeau? Quelles sont ses intentions? Vous le découvrirez en lisant la dernière des Stanfield de Marc Lévy. Et ce livre vous entraînera de la France occupée à l'été 44 jusqu'à Baltimore dans la liberté des années 80 et ensuite à Londres et Montréal de nos jours.
Oui, ça c'est un petit point fort de Marc Lévy de faire voyager ses auditeurs, c'est vrai. On va passer maintenant à Vincent Aoui.
Vincent Aoui. Au niveau consonne, celui-là, il servirait au Scrabble, si on pouvait mettre les noms propres. Le tricycle rouge de Vincent Aoui, qui a eu le prix Michel Bussy, qui a d'ailleurs dit que dans ce livre, il avait trouvé un vrai talent d'écriture au service d'une intrigue efficace et riche en rebondissements. En deux mots, Noah Wallace est un homme usé. Il n'est plus que l'ombre du brillant profiler qu'il était jusqu'à ce qu'un jour, un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais on trouve une carte postale sur le lieu d'un crime atroce au Canada, et cette carte postale l'implique lui directement et le ramène à une série de meurtres commis 5 ans plus tôt. C'est assez prenant comme lecture, et quand on l'a commencé, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller jusqu'au bout. Mmh. Le tricycle rouge de Vincent Aoui.
Deux autres
voilà,
titres.
Voilà, il y a Celle qui ne pleurait jamais de Christophe Vass.
Oui.
Et Le diable en personne de Peter Faris.
Et on passe dans le côté roman jeunesse.
Cette fois-ci, on n'a pas oublié nos jeunes ados qui sont assez nombreux à venir à la médiathèque. On a mis en avant deux romans. Le premier, Le soleil est pour toi de Jean D. Nelson. Deux jumeaux, Noah et Jude. Jumeaux fusionnels. Ils ont toujours tout partagé et leur amour l'un envers l'autre, comme beaucoup de jumeaux d'ailleurs, semble plus fort que tout. Et pourtant, lorsque Jude devient une jeune adolescente branchée et que Noah, lui au contraire, va se noyer dans son art, les choses commencent à changer lentement jusqu'à ce qu'un drame survienne dans leur vie. Et ce drame les changera, les séparera et provoquera un véritable tremblement de terre dans leur vie et leur cœur. Grande réussite de ce roman jeunesse, c'est de nous faire percevoir la magie de la vie, avec à la fois son côté éthéré, mais aussi sa pesanteur.
Mmh. Ensuite, il y a un livre, J'ai avalé un arc-en-ciel.
Alors, J'ai avalé un arc-en-ciel de Ervan J. Je vous dirai à la fin de quoi il est sujet dans ce livre. C'est l'histoire de Capucine, qu'on appelle Puce. Elle a 17 ans, la pomate et l'accent de Montpellier. Enfin, l'accent, c'est quand elle parle français, parce qu'elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 3 ans. Et cette année, il lui est arrivé un truc phénoménal. Un retournement dans sa vie, un frisson géant, une secousse cosmique. On peut appeler ça comme on veut, mais la vérité, c'est elle qui nous le dit, c'est qu'en fait, j'ai avalé un arc-en-ciel. Alors de quoi parle ce livre ? La couverture multicolore peut aiguiller et supprimer les doutes sur sa thématique centrale. En fait, la thématique de ce roman, c'est l'homosexualité. On se doute que Capucine s'est rendue compte de quelque chose lorsqu'elle avait 17 ans. C'est donc un sujet à la pointe de l'actualité et malheureusement, il est encore tabou dans beaucoup de milieux. Heureusement, il tend un petit peu à se démocratiser, si on peut dire cela, chaque jour un peu plus. D'autres titres pour les ados, Le Grand Saut avec 2 tomes de Florence Henkel, tome 1 et tome 2, La Lectrice de Tracy Chi et La Bibliothèque des Citrons de Joe Cotterill. Voilà de quoi lire durant le mois de décembre et après les fêtes aussi.
Oh oui. Alors avant notre coup de cœur musical, il y a un coup de cœur littéraire. Quel est ce coup de cœur de la médiathèque Marie-Lanne Longue de Lafitte ?
Les périodes qu'on vient de vivre il y a quelques semaines et dont on ne parle plus, mais je pense que le malaise continue d'exister, ce sont ces tensions internationales entre certains pays et surtout ces tensions sur fond de menaces nucléaires. J'ai pensé face à, je trouve, l'indifférence des gens et la banalisation de la chose, qu'il serait peut-être bon de rappeler ce qui se cache derrière ces mots. Menace nucléaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui ? Il y en a beaucoup qui voient ça comme presque un feu d'artifice ou une guerre banale comme il y en a tous les jours. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu découvert dans un journal un article qui présentait un livre qui s'appelle « Le journal d'Hiroshima ». Ce livre a été publié en langue anglaise en 1955, donc il n'est pas récent. Et il a été traduit en français seulement en 2011. Il a été écrit par Michihiko Ashiya. Qui est Michihiko Ashiya ? C'est tout simplement un médecin d'Hiroshima qui travaillait à l'hôpital d'Hiroshima, qui a subi donc explosion nucléaire qu'il a vécu et qui raconte au jour le jour les événements et tout ce qui en est suivi jusqu'à ce que les troupes d'occupation américaine arrivent sur Hiroshima. C'est donc un témoin survivant qui donne effectivement toute son ampleur et tout son sens à ce récit. Alors il a tout d'abord écrit au jour le jour dans un petit journal qui paraissait dans l'hôpital. Et puis, il a rassemblé ses notes et quelqu'un les a trouvées et a souhaité les éditer. Donc, c'est un document vécu. Moi, je trouve qu'il a une valeur inestimable. L'auteur a été, bien sûr, grièvement blessé par la bombe. Et donc, son témoignage est double, puisqu'il nous rapporte ce qu'il a vécu en tant que victime et en tant que médecin qui a été occupé, malgré ses blessures, à soigner ses compatriotes et puis surtout à continuer de lutter contre toutes les maladies provoquées par ces radiations atomiques. Je dois avouer qu'on reste pétrifié d'horreur. C'est peut-être pas vraiment le mot, je dirais, c'est bouleversé, c'est gêné, c'est bizarre comme sentiment quand on lit les scènes qu'il décrit dans toutes ces pages. Mais je pense qu'il ne faut pas cantonner ce livre à cette chose-là. Parce que par-delà la description de l'explosion, de l'incendie, du typhon qui les a suivis, le livre, qui est très sobre dans son écriture, il atteint, à mon avis, les cimes de l'héroïsme. Et il nous montre une humanité qui reprend conscience d'elle-même après le cataclysme. Il est extrêmement riche d'enseignements humains. Je n'ai pas l'habitude, quand je présente un coup de cœur, de lire des extraits parce que je pense que ça peut-être un peu lasser, mais je trouve que là, on ne peut pas faire autrement que vous lire 2 extraits de ce livre. Le premier, c'est tout simplement la préface pour vous remettre en mémoire les événements, comment ça s'est passé. 6 août 45, 8h15 du matin, 3 B-9 américains tracés dans le ciel d'Hiroshima. Les Japonais, en alerte depuis l'aube, n'eurent pas d'inquiétude. Même si la ville n'avait encore jamais subi de raid aérien depuis le début de la guerre, ces avions n'étaient pas assez nombreux pour engager un bombardement dangereux. Ils se trompaient. L'un de ces 3 bombardiers, baptisé Enola Gay, transportait dans ses soutes une bombe de 4 tonnes et demie d'un nouveau genre. Une bombe à l'uranium d'une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un engin d'une telle capacité avait été conçu afin de détruire une population civile. L'état-major américain l'appelait « Little Boy ». La bombe explosa en l'air, à 580 mètres d'altitude. Une immense bulle de gaz incandescent de plus de 400 mètres de diamètre se forma en une fraction de seconde, émettant un puissant rayonnement. Dessous, les températures augmentèrent en quelques instants de 4000 degrés. Sur Terre, le feu se déclenchait déjà. Le passage de l'onde de choc pulvérisa tout, provoqua des vents de plus de 800 km/h. Puis un champignon, fait de poussière et de débris de toutes sortes, entama une ascension de plusieurs kilomètres dans le ciel. Hiroshima n'était plus qu'un immense brasier et les victimes furent innombrables. Donc voilà, ça c'est le récit technique, si on peut appeler ça, de ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais vous lire la première page du livre Le journal d'Hiroshima. Donc c'est Michihiko Ashiya qui parle lui-même puisqu'il raconte. Et je vous rappelle qu'il était médecin dans l'hôpital d'Hiroshima. 6 août 45. Il était tôt. La matinée était calme, chaude et belle. Tandis que je regardais pensivement vers le sud à travers les portes grandes ouvertes de la maison, des feuillages scintillants, reflétant la luminosité d'un ciel sans nuages, formaient un ravissant contraste avec les ombres du jardin. Vêtu d'un caleçon et d'un maillot de corps, j'étais étendu sur le sol du séjour. Épuisé au sortir d'une nuit sans sommeil à l'hôpital, où j'avais été de garde pour parer à l'éventualité d'un raid aérien. Soudain, un puissant éclair de lumière me fit tressaillir. Puis un second, on garde en mémoire de tels détails. Je me souviens parfaitement d'une lanterne en pierre qui se mit à scintiller vivement dans le jardin et je me demandais si cette lumière provenait d'un éclair de magnésium ou des étincelles causées par le passage d'un tramway. Les ombres du jardin disparurent. Le paysage, si brillant et ensoleillé un instant auparavant, devint sombre et brumeux. Au travers d'une poussière virevoltante, je pouvais à peine distinguer le pilier en bois qui soutenait un angle de ma maison. Il penchait excessivement et le toit vacillait dangereusement. Instinctivement, je tentais de fuir, mais des gravats et des poutres tombées au sol me barraient le passage. En me faufilant à tâtons, je réussis à atteindre le couloir, puis à sortir dans le jardin. Submergé par un immense sentiment de faiblesse, je m'immobilisai pour regagner mes forces. À ma grande stupeur, je découvris alors que j'étais complètement nu. Chose étrange. Où étaient passés mon caleçon et mon maillot de corps? Que s'était-il passé? Tout le flanc droit de mon corps était lacéré et saigné. Un grand éclat de quelque chose saillait d'une plaie ouverte à ma cuisse et quelque chose de chaud s'écoulait dans ma bouche. En la touchant délicatement, je m'aperçus que ma joue était déchirée et que ma lèvre inférieure pendait, béante. Un gros morceau de verre était fiché dans mon cou. Sans y penser, je l'en délogeai et avec le détachement d'un homme sidéré et en état de choc, je l'étudiai ainsi que ma main ensanglantée. Et ça continue, comme ça pendant 350 pages. Donc je pense que quand on lit ça, Il faudrait essayer de se le remettre dans la tête quand on écoute les infos ou qu'on lit des articles sur les risques qu'il peut y avoir entre deux pays actuellement qui se menacent les uns les autres d'explosion nucléaire. Mmh. Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois.
Nous allons parler du coup de cœur musical qui se rejoint, je crois.
Bon, il se rejoint, oui, il va apporter une note de gaieté, bien qu'en étant sur le thème d'Hiroshima. C'est une chanson qui a été enregistrée en 1990 par une chanteuse allemande, Sandra, qui aujourd'hui s'est retirée, je dirais, de la vie du business, du show business. La chanson est en anglais, elle a des sonorités qui vont très bien avec ce qui s'est passé à Hiroshima et qui chantent. Et les paroles aussi, puisque en français, voilà quelques traductions. Elle dit « Vole, petit oiseau, vers Hiroshima, seul sur le chemin, laisse le ciel exploser. Hiroshima, Hiroshima, le monde se rappelle de son nom, se rappelle que la flamme était Hiroshima. Maintenant, c'est à peine si nous nous rappelons de son nom. »
C'est très très fort. On va l'écouter. Et donc, merci beaucoup, Luc, de nous avoir donné une si belle sélection et aussi poignante.
J'espère que je n'aurai pas trop plombé quand même l'atmosphère. Et puis que vous serez de nouveau nombreux à venir nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission, je vous promets, plus gaie. Au revoir à tous.
Merci.
Yeah.
Au fil des mots, une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelongue, médiathèque de Lafitte Vigordane.
Retrouvez-nous le deuxième mardi de chaque mois à 18h et le dimanche qui suit à 10h30 sur les ondes de Radio Galaxie 98.5 FM.